Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
Vous êtes en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver. Alors, on poursuit un petit peu notre tour du monde des problèmes de virus. On avait commencé avec notre suivi du grand sommet One Summit Planet réservé à One Health, à une seule santé. Ensuite, on a un petit peu évoqué les problèmes qui pouvaient être liés au voyage des virus. Et puis en ce moment, bien sûr, vous entendez tous parler à la radio, à la télévision de l'antivirus. Donc on aura l'occasion, on n'avait pas prévu, bien sûr, l'antivirus, mais qu'on avait prévu de parler aujourd'hui d'un autre virus qui atteint aussi nos élevages. Il s'agit de la peste porcine. Alors, effectivement, on a eu une attaque de nos élevages de poules et de canards avec la grippe aviaire. On a eu nos bovins qui ont été touchés par la dermatose. Et on a aujourd'hui une peste porcine qui se trouve à nos portes, puisqu'elle se trouve en Espagne. Alors, pour en parler avec nous aujourd'hui, on a le docteur Ferrangiori Massanas. Bonjour.
Bonjour, Dominique.
Alors, donc, j'ai un peu regardé. Vous êtes chercheur au CIRAD, à l'INRAE, et enfin, finalement, à l'UMR Astre. C'est-à-dire que vous vous occupez un peu de tous les problèmes d'animaux. On va y revenir avec vous. Et puis, vous êtes donc sur le campus international de Bayarbier, à Montpellier. Et vous êtes vétérinaire au départ. Vous avez été formé comme vétérinaire épidémiologiste. Et puis, vous avez écumé le monde ensuite. Alors, vous avez beaucoup travaillé aussi avec des associations et notamment avec Vétérinaires sans frontières. Alors vous êtes donc, qu'est-ce qui vous a conduit à travailler finalement sur le porc ?
Alors, disons que je travaille pas forcément sur le porc uniquement, je travaille surtout sur les animaux sauvages. Et je travaille beaucoup sur les suidés sauvages, mais aussi sur d'autres animaux. Et ce qui m'a emmené à travailler sur les animaux sauvages, c'est un peu vocationnel. Je pense que quand j'étais petit, je regardais la télé, on voyait des séries comme Daktari, où on voyait des vétérinaires qui manipulaient ou travaillaient avec des animaux sauvages en Afrique du Sud. Je pense que ça m'a beaucoup influencé à ce moment-là et j'ai toujours été très attiré par les animaux sauvages. J'adorais aller au zoo. Et puis c'est une discipline qui n'était pas très abordée mais qui m'a toujours intéressé. Et je me suis aussi rendu compte quand j'ai commencé à travailler à l'international que dans les pays du Sud, la faune sauvage était un élément très important puisque les gens chassent beaucoup et il y a beaucoup plus de... La faune sauvage est beaucoup plus abondante qu'en Europe. Et du coup, l'homme et les animaux sauvages et les domestiques sont beaucoup plus exposés avec les animaux sauvages. Et du coup, je me suis dit que c'était un bon créneau pour se spécialiser là-dedans.
Très bien. Alors donc, vous avez travaillé sur beaucoup d'animaux, nous dites-vous, mais on va essayer aujourd'hui donc de focaliser un petit peu sur les porcs, les suidés. Alors d'abord, j'ai oublié de dire que vous étiez effectivement espagnol et que vous aviez fait vos études à Barcelone, si je crois bien, c'est ça ?
C'est exact.
Ah, voilà. Et donc, vous avez rejoint Montpellier. Vous y êtes de manière un peu permanente ou bien vous continuez encore à écumer le monde ?
Donc oui, je suis arrivé en 98 à Montpellier parce que le CIRAD m'avait proposé une position permanente. Et depuis, j'ai pas mal parcouru le monde, au Brésil, en Afrique du Sud, Botswana. Donc au total 12 ans d'expatriation. Et maintenant, depuis 2016, donc ça va faire 10 ans que je suis basé de façon permanente à Montpellier, mais je me déplace quand même assez régulièrement pour faire des missions sur des projets que je coordonne et sur lesquels je dois superviser les activités. Donc je me déplace quand même beaucoup, même si je suis basé de façon permanente à Montpellier.
Très bien. Alors, vous nous avez dit que vous étiez d'abord sensibilisé à la faune sauvage. Qu'est-ce qu'on appelle, alors, un suidé, d'après ce que j'ai compris, je ne suis pas scientifique, hein, ce n'est pas mon objectif. Et donc, c'est la famille du porc.
C'est la famille des cochons. Oui.
C'est la famille des cochons. Voilà.
Oui. C'est les animaux, enfin, qui se ressemblent. Aux cochons, mais qui sont
alors,
sauvages.
Qu'est-ce qu'on a, oui, comme cochons sauvages, alors?
Voilà, c'est des cochons sauvages. Alors, chez nous, on a le sanglier, avec tout, la plupart des gens qui nous écoutent seront familiers, mais en Afrique, il y a au moins 3 ou 4 espèces de cochons sauvages. On a le facochère, qui est le pumba, qui a été, je dirais... connu dans le Roi Lion, qui est un personnage du Roi Lion, le sanglier avec les grosses dents qui sortent. Mais il y en a d'autres qui ressemblent aux cochons ou aux sangliers. Qui
s'appellent comment
espèces. Et en Asie, c'est là où il y en a plus, il y a au moins 13 espèces de cochons sauvages.
13 espèces, et alors qui sont que des gens ont apprivoisé ou pas du tout?
Pas du tout. La plupart du temps, c'est des populations complètement sauvages. Non, c'est des espèces sauvages comme chez nous, le sanglier ou le cerf. Ils sont pas du tout apprivoisés, ils vivent dans la forêt en liberté totale.
Alors, comment s'est fait le lien entre finalement ces animaux que vous aviez une certaine curiosité pour les découvrir et mieux les connaître, hein, entre ces animaux. Et puis aujourd'hui, le travail que vous faites de vétérinaire, enfin, ou de chercheur même, et d'épidémiologiste, hein, sur les problèmes de la fièvre porcine.
Alors disons que quand je suis rentré au CIRAD, et le CIRAD travaille donc sur les grandes maladies animales tropicales, une de ces maladies animales tropicales qui affecte depuis très longtemps l'élevage de cochons en Afrique était et la peste porcine africaine. Et du coup, je crois que c'était en 1998, l'année où je suis rentré au CIRAD, la peste porcine africaine venait d'arriver à Madagascar. Et ça causait une grosse crise sanitaire parce que ça tuait tous les cochons.
Alors qu'est-ce que c'est que cette peste porcine? Parce que ça fait 2-3 fois qu'on en parle, mais comment ça se voit? Quels sont les symptômes? Comment c'est?
Ok. Donc, déjà on parle de peste porcine, mais il faut distinguer, il y a deux types de peste porcine chez les cochons. Il y a la peste porcine classique. Et il y a la peste porcine africaine. La peste porcine classique, elle vient plutôt d'Europe. Elle est plus ou moins maîtrisée parce qu'il y a un vaccin qui a été développé et on peut s'en protéger en vaccinant.
Donc elle vient des pays de l'Est, quoi, c'est ça? Elle venait, je crois qu'elle a touché au début un peu les pays de l'Est.
La peste porcine classique,
oui.
Elle a touché un peu tous les pays, elle est un peu distribuée partout dans le monde, mais disons qu'il y a un vaccin qui permet aux éleveurs de protéger leur cheptel. En revanche, la peste porcine africaine, elle, comme son nom l'indique, elle vient de l'Afrique, elle vient d'un réservoir sauvage. Il y a le facochère dont on parlait tout à l'heure qui est le réservoir naturel de ce virus. Et donc ces facochères, quand ils sont en contact avec des cochons, ils peuvent transmettre la maladie. Et du coup, cette maladie est passée des phacochères aux cochons domestiques d'Afrique et progressivement des cochons domestiques d'Afrique aux pays de l'Est de l'Europe. Elle est rentrée en Europe en 2007. Et depuis, elle est rentrée par la Géorgie, donc elle n'était pas dans la communauté européenne, mais elle était par la Géorgie, elle est rentrée en Russie en 2007. Et puis en 2014, elle est rentrée en Pologne. Et depuis, elle s'est répandue dans la plupart des pays de l'Union européenne, d'Est en Ouest. Et voilà, de nos jours, elle est aux portes de la France.
Mais, et alors, on dit qu'elle est déjà en Espagne aussi.
Alors, oui, elle est en Espagne. Elle est en Espagne que depuis Noël dernier, donc depuis fin 2025. Et en revanche, elle est arrivée en Catalogne. Elle est, je dirais, à 180 km de la frontière de la France. Mais ça fait quand même depuis 2021 qu'elle est en Allemagne. Et le foyer allemand le plus proche de la France, il est à 80 km. Et depuis 2022 qu'elle est en Italie. Et le foyer le plus proche de la France, il est qu'à 60 km. Donc voilà, ça fait un petit moment qu'elle est aux portes de la France. Et ce n'est pas nécessairement depuis le foyer espagnol. Ça fait beaucoup plus longtemps.
D'accord. D'ailleurs,
Si on considère la France comme, le territoire français insulaire, cette maladie existe en Sardaigne, dans l'île italienne de Sardaigne. Il y a 50 ans qu'elle circule dans l'île italienne de Sardaigne et elle n'est jamais passée en Corse pour le moment, mais elle était à 10 km des côtes de la Corse depuis plus de 50 ans. Donc la menace, la perception que l'on peut avoir de cette maladie, c'est un peu curieux que maintenant on s'inquiète de cette maladie, qu'elle arrive en Espagne, alors que ça fait quand même un moment qu'elle est aux portes de la frontière française.
Peut-être qu'on s'inquiète parce que on est en train de prendre conscience du fait que les virus se baladent beaucoup et c'est vrai que c'est devenu un sujet médiatique important avec le réchauffement climatique, etc. Et qu'on n'a peut-être rien dit de ces choses-là les années passé et qu'on commence à s'en inquiéter maintenant et puis qu'il y a eu une grosse émotion aussi qui a été liée à la dermatose. C'est peut-être toutes ces raisons qui font qu'on en parle plus.
Oui. Je pense que la société, les médias sont de plus en plus sensibilisés aux problèmes de santé animale et de santé globale et logiquement, ça provoque des crises très importantes et la peste porcine africaine est certainement une maladie redoutable parce que donc, quand elle rentre dans un territoire ou dans un pays, elle peut dévaster toute une population de cochons ou de sangliers et logiquement ça provoque des crises très importantes.
Alors justement, c'est une bonne question à vous poser, vous en tant que chercheur, est-ce que vous pensez qu'on doit en parler ? Parce qu'on se trouve en ce moment dans une... nous journalistes, on se trouve avec quelque chose d'assez contradictoire. D'un côté, on nous dit qu'il faut faire de plus en plus d'informations parce qu'il est normal que le grand public sache qu'il est menacé, ce qu'il doit faire. On va d'ailleurs en reparler ensemble, etc. Mais d'un autre côté, on dit « Ah oui, mais vous effrayez les populations inutilement, il ne faut pas le faire. » Et vous, en tant que chercheur, vous êtes favorable à quoi ? Bonne question, n'est-ce pas ?
On est favorable à plat. Je pense qu'il faut donner de l'information, mais il faut donner la bonne information. Et la bonne information, il faut qu'elle soit donnée par les spécialistes. Et du coup, quand on n'est pas spécialiste, il y a le risque que l'information qui soit donnée ne soit pas assez précise et du coup qu'elle soit interprétée de la façon incorrecte et du coup ça peut générer effectivement de la panique.
D'accord. Donc, en fait, voilà. On a fait le bon choix, tous les deux.
Les nuances sont très subtiles. Et parfois, c'est difficile de communiquer simplement sur des choses qui sont finalement assez complexes. Et si on n'est pas spécialiste, on a de la difficulté à saisir ces subtilités.
Alors justement, puisque c'est complexe, expliquez-nous un peu donnez-nous un peu plus d'informations concernant cette peste porcine africaine. D'abord, quels sont ses symptômes? Ensuite, est-ce qu'elle est dangereuse pour l'homme? Deuxième question. Et puis troisième question, est-ce que nos élevages... Alors, je reviendrai sur cette notion d'élevage parce que on s'aperçoit que... Enfin, on se pose peut-être des questions concernant les élevages, donc on en parlera après. Mais dites-nous d'abord comment elle se manifeste et puis est-ce qu'elle menace l'homme?
D'accord. Alors, la peste porcine africaine, c'est une maladie virale, hein, c'est un virus, on parlait de virus, et c'est une fièvre hémorragique qui a une morbidité, qui se transmet très facilement entre cochons ou entre sangliers, et quand elle se transmet dans une population de cochons ou de sauvages ou domestiques, elle provoque une mortalité très élevée. C'est un peu pour le grand public, pour illustrer, ça serait un peu un mélange de Covid et Ebola.
Ebola, oui, plutôt.
En revanche, elle n'affecte pas du tout l'homme. C'est une maladie qui n'affecte que les cochons domestiques et sauvages, notamment de l'Asie et de l'Europe.
Mais alors, en l'absence de vaccin, quand un élevage est touché, il faut quand même abattre les porcs.
Alors, oui, effectivement. Quand un élevage est touché et en absence de vaccin, la mesure qui serait imposée par les autorités, parce que c'est la mesure malheureusement plus efficace en absence de vaccin, c'est l'abattage systématique de tous les animaux de cet élevage.
Alors, à Lyon, Wannels, les chercheurs qui étaient réunis à Wannels travaillaient beaucoup sur cette notion de vaccin en disant que, tout le monde était d'accord pour dire qu'il faut travailler de plus en plus sur les vaccins. Est-ce que vous travaillez, vous, sur les vaccins concernant la peste porcine africaine?
Alors, moi directement, je suis épidémiologiste,
oui, pas vous, mais oui.
Donc je ne travaille pas sur les vaccins. Je suis surtout épidémiologiste de terrain. Et les gens qui travaillent sur les vaccins, c'est surtout les gens qui sont dans les laboratoires. En revanche, ayant travaillé depuis de nombreuses années sur la peste porcine africaine, j'ai participé à plusieurs projets, notamment des projets financés par l'Europe, où on essayait de développer des vaccins sur la peste porcine africaine. Donc je connais un peu le sujet. Si j'étais emmené en tant qu'épidémiologiste à travailler sur la peste porcine africaine dans mon domaine, je serais sans doute sollicité pour tester des vaccins sur les sangliers. Donc des vaccins qui seraient déployés sous forme d'appât dans la forêt pour que les sangliers les consomment. C'est ce qu'on fait en général quand on vaccine la faune sauvage. On ne peut pas aller avec une seringue derrière les animaux sauvages pour les vacciner. On déploie des appâts qui contiennent un vaccin. Mais,
Et est-ce qu'on travaille sur ces vaccins porcins pour l'instant? Est-ce qu'il y a des... vous voyez arriver quelque chose à l'horizon ou bien pas du tout?
Ben, on travaille beaucoup sur ces vaccins depuis très longtemps, mais c'est une maladie qui est autant pour d'autres maladies, par exemple la peste porcine classique, qui est aussi une maladie porcine, qui est aussi une maladie virale. On a réussi à produire des vaccins qui marchent bien depuis très longtemps, et c'est aussi le cas pour d'autres maladies animales. Le virus de la peste porcine africaine est particulièrement contraignant pour arriver à produire des vaccins qui puissent être efficaces. Et actuellement, même s'il y a plusieurs laboratoires qui travaillent sur des vaccins en Europe, que ce soit en Espagne, que ce soit en Allemagne, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, enfin tout le monde essaye de travailler sur ce vaccin, parce que logiquement, ça peut produire un remède comme ça serait un grand atout pour lutter contre la maladie, mais aussi pour les laboratoires qui auront la capacité de vendre ce vaccin un grand business. Mais malheureusement, on est loin d'arriver à avoir un vaccin qui soit efficace, déjà pour les cochons en élevage, ce qui est beaucoup plus simple, mais et encore plus pour les sangliers sauvages, qui sont dans la plupart des pays, ou dans une grande partie des pays qui sont atteints de cette maladie dans l'Union européenne, c'est surtout chez les sangliers, et pas tellement chez les cochons, parce que chez les cochons, bon, on arrive dans les élevages, en faisant de l'abattage systématique, on peut arriver, après un gros effort, à éliminer la maladie. En revanche,
oui, mais...
quand elle existe chez les populations sauvages, c'est très difficile
Mais ça, je crois qu'on a effectivement, on voit bien la différence. Il n'empêche que les éleveurs attendent de tous, enfin on l'a vu pour la dermatose par exemple, ils refusent qu'on abatte leurs bêtes et ils réclament des vaccins. Donc ça va sans doute être pour les porcs la même chose que pour les bovins, un jour ou l'autre. Ce vaccin, il doit être attendu quand même.
Je pense qu'un jour ou l'autre, peut-être il va arriver. Mais comme je vous dis, moi, ça fait...
pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Plus de 20 ans que j'entends parler. Je sais qu'il y a des laboratoires qui travaillent sur le vaccin de la peste porcine africaine. Je sais que cette recherche s'est accélérée et a reçu encore plus de ressources pour y arriver. Et aucun pays dans le monde, à ce stade, a réussi à obtenir un vaccin. Donc bon, les vaccins, même si on en a besoin, c'est pas automatique et c'est pas avec une baguette magique. Il y a des virus ou des maladies pour lesquelles c'est facile, et il y en a d'autres, comme c'est le cas, où c'est extrêmement compliqué et c'est pas encore... d'actualité qu'on ait un vaccin contre ce virus, malheureusement.
D'accord. Alors, donc, là, on vient de voir concernant les élevages, hein, mais c'est ce qui est quand même étonnant, c'est que aujourd'hui, on voit, on a commencé par les volailles, ensuite on a eu les bovins, ensuite on a les porcins. Est-ce que l'élevage en nombre, l'élevage industriel, n'est pas lui aussi un vecteur ? Enfin, c'est une des questions qu'on se pose.
Non, l'élevage industriel n'est pas nécessairement non un vecteur, parce que, comme je vous dis, dans un élevage industriel, il y a des bonnes conditions de biosécurité, les animaux sont facilement détectés quand ils sont malades, en plus, bon, il y a des mortalités massives quand cette maladie atteint un élevage porcin, c'est comme un élevage de volaille quand il y a la grippe aviaire, donc il y a des grosses mortalités, ça se détecte assez vite. Et en général, les autorités réagissent, ça réagit assez vite. C'est beaucoup plus compliqué quand il y a des petits élevages de basse-cour, comme ça arrive en Afrique ou dans beaucoup de pays de l'Est, ou des élevages en plein air, ou des élevages familiers, où il y a beaucoup moins de biosécurité, c'est beaucoup plus difficile à contrôler. Mais disons que dans les élevages industriels, la composante la plus facile à contrôler parmi toutes celles qu'on peut imaginer dans le cadre de la peste porcine africaine.
Alors, très bien, donc voilà. Et vous savez, on a beaucoup aussi évoqué le problème des sangliers. Donc, vous savez que les sangliers, bien sûr, puisque vous êtes au CIRAD, ils sont très au nord de Montpellier, d'ailleurs, parce qu'on a une végétation qui est très proche. Hein. On les voit, effectivement, les gens les prennent de plus en plus en photo. Et ils sont de plus en plus nombreux. Est-ce que c'est quelque chose que... est-ce que ces sangliers nous viennent des grands feux qui ont eu lieu l'année dernière, ou bien est-ce que c'est un phénomène qui est en train de se développer au niveau international ?
C'est un phénomène qui est en train de se développer au niveau international. Déjà, les cochons sauvages, les cochons en général, mais les cochons sauvages sont des espèces très intelligentes. Ce sont des espèces qui sont omnivores, comme l'homme, qui ont une grande capacité d'adaptation parce qu'elles mangent de tout. Et du coup, on constate en Europe, mais aussi dans le monde en général, une augmentation des populations de sangliers, notamment en Europe et en Asie. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent cette augmentation des populations de sangliers depuis maintenant au moins une ou deux décennies. D'un côté, le changement climatique, les hivers sont de plus en plus doux. Et normalement, l'hiver, c'était la période creuse pour les sangliers, où il y avait moins d'aliments. Et donc, il y avait une certaine proportion des portées de jeunes sangliers qui mouraient parce qu'ils avaient moins à manger, donc ils étaient plus faibles. Ça existe de moins en moins. Les hivers sont de plus en plus doux. Il y a de plus en plus à manger. D'un autre côté, il y a l'expansion de l'agriculture. Comme je disais, un sanglier mange de tout. Et du coup, ils ont de plus à manger. C'est des grands prédateurs de culture.
Et de nos poubelles également.
Et du coup, ils ont beaucoup à manger avec l'expansion agricole. Un troisième problème, c'est que souvent, ils sont capables de s'hybrider avec les cochons. Et du coup, quand il y a des cochons en divagation et des sangliers, ça peut produire des hybrides. Les cochons domestiques sont beaucoup plus prolifiques et donc cette hybridation aussi contribue à des sangliers plus prolifiques et donc plus de petits, plus de portées. Et un quatrième gros problème, c'est que les grands régulateurs des populations de sangliers étaient les grands prédateurs, les ours et loups, bon, il y en a de moins en moins en Europe, et les chasseurs, qu'il y en a de moins en moins en Europe, puisque les nouvelles générations ne chassent plus tellement. Elles sont moins favorables ou moins intéressées par la chasse. Et du coup, on se retrouve avec de moins en moins de chasseurs qui étaient les régulateurs de populations de sangliers. Donc tout cet ensemble de facteurs font que les populations de sangliers sont en explosion en Europe depuis très longtemps. Et puis, l'exode rural, avec les campagnes qui sont de plus en plus vides et donc plus en plus de forêts et à côté de la forêt des champs de culture font un environnement idéal pour le sanglier.
Alors, il nous reste malheureusement très peu de temps et on va être obligé de se quitter. Mais est-ce que, à votre avis, est-ce qu'il faut lutter contre ces sangliers dans les villes ou bien est-ce que on les laisse finalement s'autoréguler?
Je pense qu'un problème qu'on a dans les villes, c'est le sanglier urbain. Et le sanglier urbain, c'est un problème un peu particulier. C'est que, logiquement, les populations urbaines, les populations citadines, ne sont pas toujours exposées à la faune sauvage. Et du coup, quand elles voient un sanglier en proximité, ils trouvent les citadins, ils trouvent ça exotique et mignon. Et souvent, il y a des personnes qui leur...
Ils les nourrissent même.
Ils ont accès aux poubelles. Et le problème, c'est que les sangliers, plus ils ont à manger, plus ils se reproduisent. Et moins ils ont peur de l'homme. Donc, quelque part, le sanglier urbain, c'est provoqué par l'augmentation des populations de sangliers, mais aussi par une mauvaise gestion des déchets et par un comportement, je dirais, parfois...
inapproprié des hommes,
qui leur donnent à manger ou qui laissent de la nourriture à leur disposition. Et tout ça fait que les sangliers urbains sont en train de proliférer, pas uniquement à Montpellier, mais dans...
Donc il faut apprendre aux gens à bien sûr savoir se conduire par rapport à ces animaux. Bon, écoutez, je crois qu'on va malheureusement se quitter. Vous auriez encore beaucoup de choses, je suppose, à nous apprendre. Mais d'autant que je voulais effectivement voir avec vous les conseils qui sont à donner aux voyageurs, puisque nous allons tous partir en vacances. Par exemple, moi, je pars en Sardaigne et je viens d'apprendre que la peste porcine africaine, vous venez de m'apprendre qu'elle était répandue. Alors, à quoi je dois faire attention en tant que voyageur, par exemple, quand je vais revenir à Montpellier ?
Écoutez, c'est une très bonne question. Il faut, quand on part dans un pays où la peste porcine africaine est endémique, il faut surtout éviter de ramener des produits, de produits carnés de cochon. Que
D'accord.
ce soit des produits de la charcuterie ou que ce soit de la viande de cochon, si ça vient d'un cochon qui a été infecté, même si c'est de la saucisse, même si c'est du jambon, le virus peut survivre pendant plusieurs mois. Et du coup, en ramenant des produits carnés de cochon, on peut introduire la peste porcine africaine dans un pays. Par exemple, si ça reste dans une poubelle pour laquelle un sanglier a accès, on peut facilement introduire la maladie chez une population de sangliers. C'est probablement une des scénarios qui prévaut dans l'introduction de la peste porcine africaine en Catalogne, en périphérie de Barcelone. Donc il faut faire très très attention quand on va dans un pays où il y a la peste porcine africaine, de surtout ne pas ramener des produits à base de cochon dans nos valises.
Bien, merci Ferrand Jordi. Massanas, je rappelle que vous êtes vétérinaire, chercheur, épidémiologiste, que vous travaillez au niveau international. Merci pour tous ces conseils et j'espère aussi que nous aurons l'occasion de reparler des conseils à donner à tous ces voyageurs qui nous reviennent au moment où les virus deviennent des virus un peu baladeurs. Merci, au revoir.
Merci beaucoup Dominique, au revoir et à bientôt, à une prochaine fois. Merci.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.